Dans 18 ans,
Jacques Attali,
Zoé Sfèze. Et bienvenue à tous, nous profitons cette année de la pause estivale pour prendre de la hauteur, nous poser cette question. À quoi ressemblera le monde dans 18 ans, lorsque les enfants nés cette année seront majeurs? Nous nous livrons donc à cet exercice assez périlleux, nécessairement imparfait mais quand même passionnant, celui de la prospective, avec Jacques Attali. Nous disposons bien sûr de quelques données quasi certaines sur ce monde de 2037, mais il dépend aussi beaucoup des choix, des scénarios qui seront privilégiés. Chaque semaine, un thème, un domaine, une grande voie pour explorer ensemble ces différents scénarios. Et cette semaine, nous tentons d'imaginer, d'interroger la physionomie de la France en 2037. Une France que l'on sait déjà plus peuplée, un peu plus vieille, plus urbaine. Et notre invitée aujourd'hui est Sophie Vaniche. Vous êtes historienne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la période de la Révolution française et autrice entre autres de L'impossible citoyen, l'étranger dans le discours de la Révolution française, Les émotions, la Révolution française et le présent, exercice pratique de conscience historique ou plus récemment Le radeau démocratique, chronique des temps incertains. Ça c'était en 2017 et vous travaillez, on peut le dire, dans un rapport entre le passé et le présent assez engagé sur la question de l'invention démocratique.
Je suis ravi de parler avec vous de l'avenir de la France. Ça peut paraître étrange que nous ayons souhaité parler avec une historienne de l'avenir, mais d'abord parce que j'ai toujours pensé qu'on peut rien comprendre à l'avenir si on connaît pas très très bien le passé. Ensuite parce que c'est pas très amusant d'écrire la France dans 18 ans si c'est simplement pour décrire des invariants ou des choses qui ne changeraient pas beaucoup. Et enfin parce que particulièrement la France, c'est un pays qui n'avance pas par réforme jamais, mais par révolution. Pour des raisons qui, à mon avis, tiennent à son caractère rural, un pays maritime, ce que n'est pas la France, malgré ce qu'elle aurait dû être, avance par réforme parce qu'il accueille le neuf en permanence venant de la mer, tandis qu'un pays rural, qui a intérêt, parce qu'il est rural, à la répétition du même, au retour des saisons, et retour, n'avance que dans le refus de la continuité, donc dans la rupture. Et la France a avancé par rupture. Il y a eu une grande rupture en 48, 45, pour en rester aux dates récentes, il y a une grande rupture en 58, il y en a une autre en 81, et on peut dire que depuis 81, il n'y a pas de rupture majeure, même si, pour faire une métaphore de la Révolution française, la dernière élection présidentielle peut s'accommoder d'une métaphore de nuit du 4 août ou de première phase de la Révolution française, avec une sorte de dégagisme soft des élites qui sont restées quand même entre soi et qui n'ont pas satisfait toutes les exigences du peuple. Aujourd'hui, on sent venir, en dehors des contraintes qu'a dites Zoé, c'est-à-dire une population un peu plus vieille, un peu plus nombreuse, un peu plus urbaine, on sent venir d'abord des bifurcations importantes qui peuvent être la rupture de l'Union européenne. Je ne crois pas que ce soit un paramètre très probable, mais enfin, on ne peut pas l'exclure. Une grande situation de conflit international qui, dans 18 ans, pourrait modifier le paysage français. Une vague massive de migration qui pourrait aussi être considérée soit comme réaliste, soit comme un cauchemar qui déterminerait le point de vue de beaucoup de Français sur leur propre destin et leur identité. Une rupture de l'identité républicaine avec une évolution vers une identité communautariste à l'anglo-saxonne, qui a quand même été une grande évolution dont nous sommes un des rares pays occidentaux à être pour l'instant prémunis. Et un grondement démocratique qui a déjà commencé et qui pourrait remettre en cause nos institutions qui, malgré les révolutions dont j'ai parlé, sont plutôt restent de nature monarchico-démocratique aujourd'hui. Voilà, une table des matières de ce que pourrait être notre conversation. Peut-être peut-on commencer par parler des mentalités. À votre avis, comment les mentalités françaises évoluent et vont évoluer et comment, on verra ensuite comment ça peut se traduire dans le reste des institutions.
Je ne sais pas si on peut parler des mentalités françaises en général. J'aurais tendance à dire un peu comme Godard, le français moyen n'existe pas. Donc, si le français moyen n'existe pas, qu'est-ce qui existe comme composante dans la société française? Et il me semble qu'aujourd'hui, il y a à la fois des choses extrêmement classiques, une composante sociale qui cherche à protéger son confort. Et qui pourrait s'assimiler à ce qu'on a toujours appelé un parti de l'ordre dans sa composante sociale. Et puis, toute une série de groupes qui essayent d'inventer des formes alternatives de vie et d'organisation du pouvoir ou des pouvoirs ou de leur propre pouvoir sur eux-mêmes. Et qu'il y a donc des mentalités conservatrices qui dominent et des mentalités, au contraire, inventives et créatrices qui surgissent et qui sont assez nombreuses en France depuis quand même maintenant une vingtaine d'années où ont surgi des mouvements d'éducation populaire, ont surgi des mouvements associatifs, sont associés à des enjeux écologiques et il y a tout un fourmillement d'associations qui remettent en question les formes de vie les plus classiques. Alors évidemment, c'est une toute petite minorité, mais il se trouve qu'elle est assez diffuse dans le tissu social, aussi bien urbain que rural. Et les utopies démocratiques les plus radicales aujourd'hui sont dans le tissu rural. Alors on peut prendre le désir du retour sur le terrain rural comme un désir passéiste, ou très traditionnaliste, ou une espèce de position de retrait ou de sécession. En fait, ce qu'on observe, c'est pas vraiment une sécession, c'est plutôt une capacité à prendre, c'est le cas de le dire, du champ, pour pouvoir ressaisir à une échelle locale une puissance politique, qu'elle soit municipale ou qu'elle soit d'organisation de la vie au travail. Je pense bien sûr à l'ensemble des structures agricoles écologiques, mais aussi de structures de personnes qui travaillent le bâtiment écologique. Enfin, il y a vraiment toutes sortes de métiers. Et également une autre conception de la diffusion culturelle. Et donc, il y a effectivement énormément d'associations qui organisent du débat politico-culturel dans les espaces qui sont aujourd'hui ceux de la Drôme, du plateau du Limousin, du Sud-Ouest. Voilà, ça fourmille quand même. Alors c'est plus Sud que Nord, mais quand même, il y a aussi des choses dans le Nord. Donc, que dire de ça? Que ce retrait, en fait, est un retrait pour mieux reprendre pied dans la possibilité de ralentir le rapport au quotidien, mais du coup de pouvoir ressaisir une expression démocratique qui se donne le temps de fonctionner par capillarité. Et je pense que ça, c'est se donner le temps d'une transformation longue et d'une manière de concevoir la vie politique comme manière d'être au monde et non pas comme prise du pouvoir, comme si c'était le veau sur les hauts plateaux afghans où celui qui s'en est emparé a enfin la position dominante sans bien savoir ce qu'il va faire ensuite de son veau. Et donc cette conception de la politique où il faudrait structurer un parti sans savoir ce qu'on veut en faire n'est plus aujourd'hui de mise et je pense que malgré tout les dernières expériences électorales l'ont montré également.
Est-ce qu'on peut peut-être parler de quelques chiffres que nous donne l'INSEE sur les projections et la manière dont la population française évolue? 73 millions d'habitants en 2040 en France, avec une grande attractivité du Sud et de l'Ouest, un petit peu moins de l'Île-de-France, où il y a une croissance inférieure de la population, on n'est qu'à 10%, mais une ville, évidemment, une population évidemment de plus en plus urbaine, et effectivement un vieillissement de la population, 23 millions de personnes qui sont âgées de plus de 60 ans, donc ça fait quasiment 30% de la population, ce qui est beaucoup plus important, et on passe de 3 à 7 millions pour les personnes qui sont âgées de plus de 80 ans en France en 2040. Donc nous, on se situe en 2037. Qu'est-ce que, selon vous, c'est cette réorganisation avec la question évidemment de la place des villes dans cette société de la France de 2040 accentue ou pas des choses qui sont à l'œuvre aujourd'hui?
Toute la pensée actuelle, contemporaine, pour régler ou réguler, pour être plus juste, la question du carbone et la question écologique, c'est de reconnaître que l'étalement urbain produit trop de carbone et qu'il faut donc inventer des villes verticales. Donc la question, c'est quelle forme de ville ? C'est pas l'urbanité, parce que de ce point de vue-là, effectivement, la concentration urbaine, c'est à la fois la possibilité de maintenir tout ce qu'apporte l'urbanité, c'est-à-dire la culture, l'éducation, la circulation des biens et des personnes, mais il faut le faire dans une conception qui n'est plus celle de l'étalement urbain, c'est-à-dire le pavillon de banlieue n'a pas vocation à se développer, et donc il y a quelque chose à penser pour pouvoir tenir à la fois sur cette ambition urbaine et sur cette ambition carbone. Donc du coup, ça, c'est l'inventivité. Par exemple, les Parisiens adorent jardiner sur leur petit balcon ou sur leur petit... ils aiment jardiner. En Seine-Saint-Denis, il y a une production agricole qui se fait hors sol, qui est absolument déjà installée dans l'espace urbain pour différents types de plantes qui sont ensuite réellement commercialisées. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup d'inventivité pour justement tenir ce qu'on n'était pas capable de tenir, c'était l'articulation dans un même espace des agréments de la ville et de la campagne.
Est-ce que ce qu'on appelle aujourd'hui la diagonale du vide, c'est-à-dire tout ce qui va de l'Auvergne jusqu'à la Lorraine, va rester, à votre avis, dans cette dynamique, et dans ce cas-là, avec ce que ça entraîne comme évolution politique de ces régions?
On est quand même dans la boule de cristal absolue, mais disons que c'est des régions où il y a de la place pour fabriquer des nouvelles villes. Il y a toujours eu des villes nouvelles quand il y a un changement de population. On est quand même dans un trend où on va avoir énormément de migration, y compris climatique. Et il se trouve que l'Auvergne, c'est quand même, par exemple, un pays où on a des altitudes et où on peut, sur des plateaux d'altitude, imaginer la construction de nouvelles villes et d'avoir effectivement quelque chose qui, du coup, se transforme du point de vue de la répartition spatiale des espaces. Je pense même que ces nouvelles villes, elles pourraient être confiées à des groupes qui se prépareraient à venir les installer. Et donc, il s'agirait d'avoir une pensée un peu d'avance sur les enjeux migratoires pour que les installations soient programmées et qu'on sache qu'est-ce qu'on veut installer comme ville, au lieu de se claquemurer derrière des frontières, penser que c'est la chance d'un métissage multiculturel tel qu'avait pu le rêver Claude Lévi-Strauss.
Alors ça veut dire que ce serait l'acceptation d'une diversité plus grande des populations. Comment voyez-vous la dynamique entre le maintien de la laïcité stricte telle qu'elle est définie par la loi et la tendance planétaire à la compartimentalisation communautaire?
Je pense que le débat vient des États-Unis du côté des positions identitaires pour les dominés, pour les subalternes, mais que ce débat arrive à une butée aujourd'hui et qu'on le reçoit suffisamment tardivement pour être capable de l'amortir. Alors suffisamment tardivement, ça ne veut pas dire que il n'y a pas une présence forte aujourd'hui d'un clivage entre des laïcistes qui ne veulent rien entendre de la possibilité de construire une place pour les particularités et des positions identitaires qui veulent plus rien savoir d'un métissage. Ça, c'est la situation actuelle. Mais il y a déjà des relectures, par exemple de France Fanon, qui montrent que c'est beaucoup plus subtil que ce qu'on en a fait récemment, et une volonté de trouver des issues qui paraissent moins mortifères que le fait que les différentes communautés ne puissent plus même imaginer pouvoir avoir des projets communs. Donc il me semble que là, il y a des batailles politiques à mener, des batailles culturelles à mener, et qu'elles sont pas abouties. Donc on peut tout à fait imaginer qu'on soit dans une situation communautariste ou communautaire et qu'on ait renoncé complètement à l'universel singulier de la Révolution française.
Dans 18 ans, oui.
Voilà. Ou au contraire, que ce qu'on a vu quand même avec les Gilets jaunes, la personne qui s'appelle Martinez, il me semble, expliquer que dans son enfance, on allait un jour chez quelqu'un qui était italien pour manger les spaghettis, l'autre jour manger le couscous, et que donc la manière dont il concevait la diversité française, c'était le fait de pouvoir circuler d'une culture à une autre et d'avoir une bande de copains de multiples origines. Donc ça, c'est ancré dans quand même une génération qui a une cinquantaine d'années et qui a diffusé ça quand même auprès de sa propre descendance. Donc il y a quelque chose qui résiste quand même en France et qui doit se réinventer en discutant avec les positions identitaires anglo-saxonnes qui arrivent elles-mêmes aux limites de leur possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui, dans la proposition communautaire, de processus possible d'harmonisation. Donc c'est que de la rivalité, du rapport de force, du ressentiment, donc c'est que des émotions mortifères. On ne peut pas construire un monde comme ça, et je pense que les gens qui ont entre 15 et 45 ans, ils n'ont pas envie de s'entretuer tout le temps, c'est pas vrai. Donc ils cherchent des issues.
Peut-être qu'on peut parler aussi tout simplement d'une forme de dessin d'une situation économique, même si là on est vraiment sur des scénarios prospectifs, mais sur à la fois une grande accélération du télétravail et puis à la fois de plus en plus d'emplois très qualifiés et d'emplois très peu qualifiés en France, de moins en moins d'emplois intermédiaires, et le tout évidemment toujours dans ces grandes villes, même si on ne sait pas quelle forme elles auront pris en fonction de l'anticipation ou pas qu'en fera la puissance publique. Qu'est-ce que ça peut créer, cette amplification, cette disparition des fameux emplois intermédiaires dans la société française de dans 20 ans? Ce qui pose aussi une autre question qui rejoint celle qu'on se posait au début, celle de l'écologie politique finalement. Aujourd'hui, on a l'Europe, l'État, des régions plus ou moins fortes, effectivement des signaux faibles, et des îlots politiques qui ont une autre notion du politique. Comment est-ce qu'on peut imaginer que cette écologie politique fonctionne et fleurit, se soit modifiée dans 20 ans?
Alors, les écarts dans l'offre d'emploi, c'est des écarts qui sont construits en partie par la délocalisation. Pas uniquement, mais en partie. Donc, on peut imaginer que du côté des enjeux écologiques, on soit obligé de penser en circuit plus court. Et que cette pensée en circuit plus court, elle ne va pas se faire depuis l'État, elle va se faire depuis une certaine conscience écologique, avec cette affaire de fin du mois, fin du monde, et fin du monde, même si c'est le catastrophisme n'est pas nécessairement puissance de vérité, ça a des effets sur la prise en compte quand même d'une nécessité de penser le devenir écologique. Du coup, les personnes qui vont avoir cette conscience écologique, ils vont avoir aussi la conscience du circuit court et peut-être créer leurs propres institutions de travail sur un autre mode. Et du coup, je ne suis pas sûre qu'on sache quelles seront les formes de travail. Je ne suis pas sûre que ce soit simplement du télétravail. Je suis convaincue que le fait que les jeunes ne soient pas inclus rapidement sur le marché du travail va les obliger à créer leurs propres institutions. Et qu'ils vont créer des institutions inventives, ou sinon ils vont être en marge, et une société qui a 30%...
Des institutions ou des entreprises?
Oui, des institutions au sens, y compris les entreprises, c'est une institution de travail, institution au sens anthropologique, toutes les institutions dont on a besoin pour pouvoir travailler, vivre,
et être intégré, produire,
etc. Et fabriquer donc une société qui correspond à leurs désirs. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai, et on ne sait pas encore quelle forme ça aura. Mais c'est inquiétant d'avoir une société où, d'un côté, on ne laisse pas les jeunes entrer sur le marché du travail tel qu'il existe, et de l'autre côté, une société promise à avoir 30% de gens de plus de 60 ans. Oui. Parce que cette part, en fait, détermine non pas simplement un enjeu démographique, mais détermine un enjeu de répartition
de la richesse
du
au
bien,
sein de la société.
Voilà, ouais. De la richesse au sein de la société, parce que aujourd'hui, les fins de vie sont des moments de financiarisation des patrimoines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les entreprises qui connaissent la plus haute montée de cotation en bourse sont celles qui s'occupent des fameuses EHPAD. Et qu'est-ce que c'est qu'une EHPAD? C'est un lieu où on récupère tout le capital accumulé par une personne dans sa vie et qu'on le monnaie en possibilité de se maintenir en vie dans un espace social. Et donc il y a quelque chose là qui est extrêmement inquiétant, parce que c'est vraiment une transformation radicale du modèle français, où on avait quand même une transmission patrimoniale qui autorisait à sécuriser certains types d'activités, comme les activités justement artistiques, culturelles, etc. Deuxième, troisième génération, on pouvait s'autoriser à devenir artiste. Première génération artiste, deuxième, universitaire, troisième, cinéaste. Mais si les patrimoines ne sont pas sécurisés, et ben ça veut dire qu'on perd cet espace de créativité et donc on a une société qui devient une société procédurale et qui devient mortifère. Donc là, il y a quelque chose vraiment à penser en avance. Et si on le pense pas, eh ben tous les signaux faibles utopistes dont on a pu parler et démocratisants seront réduits à néant.
Moi, j'aimerais comprendre comment vous voyez le schéma révolutionnaire français tel qu'il s'est produit à plusieurs reprises. Et est-ce que on peut imaginer que ce schéma révolutionnaire, sous réserve de ce que rien ne se répète, puisse se retrouver d'une façon ou d'une autre et conduire à plusieurs étapes révolutionnaires, allant dans plusieurs sens, comme on l'a vu dans les précédents historiques français. Autrement dit, est-ce que dans 18 ans, on aura un Bonaparte? Ou est-ce qu'on aura un Lénine? Ou est-ce qu'on aura un Mussolini ou quelqu'un de ce genre?
Un schéma de rupture.
La rupture, elle arrive quand même en fin de course. Il n'y a pas de schéma révolu... En tout cas, pour la Révolution française, il y a des ruptures qui sont des ruptures culturelles et des ruptures en termes de, d'imaginaire social qui durent un siècle.
Avant
qu'il y ait quand même un moment de rupture révolutionnaire au sens insurrectionnel du terme. Donc, de ce fait, moi j'ai du mal à savoir si on est dans une période longue de transformation des mentalités, des manières d'être au monde, des formes de vie, et que du coup dans 18 ans, ben, c'est pas si loin, et donc il n'y a pas de raison d'imaginer une rupture insurrectionnelle, et qu'on sera encore dans ce qu'un collègue qui s'appelle Emmanuel Coccia appelle le cocon, où on ne sait pas ce qui va se produire, où c'est fragile, mais où quelque chose de totalement différent va émerger. Et donc, c'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que les gens qui ne sont pas satisfaits de l'état du monde actuel ont différentes manières d'envisager une transformation radicale, soit par grignotage, et c'est ce fameux cocon, c'est-à-dire c'est pas nécessairement visible, mais il se passe plein de choses souterraines qui font qu'à un moment donné, la physionomie de l'écologie politique, au sens de la manière dont s'agencent les enjeux politiques, a changé. Un peu comme le nénuphar dans la mare, moi c'est ce que j'appelle la révolution des nénuphars, ou du grignotage. Il y a un modèle sécessionniste où on peut imaginer, personnellement auquel je n'adhère pas, et où je pense qu'il est en perte de vitesse même aujourd'hui, c'est-à-dire où on pense qu'on peut fabriquer des zones séparées qui auraient leur propre manière de fabriquer la vie. Et qui est un peu le modèle Fahrenheit 451, ceux qui vivent dans la forêt et qui ont appris les livres par cœur, et qui a peut-être été celui des ZAD.
Notre-Dame.
Voilà, c'est ça, celui des ZAD. Mais aujourd'hui, on voit bien que les gens qui ont à la fois participé aux ZAD, participé à toutes sortes de choses, sont plutôt enclins à essayer de conquérir des municipalités. Et puis, la dernière forme, c'est bien sûr la forme insurrectionnelle. Mais la forme insurrectionnelle, elle est coûteuse. Et aujourd'hui, on dirait que le rapport de force n'est pas favorable. L'expérience des Gilets jaunes l'a montré. Quoi qu'on pense des Gilets jaunes, la répression a été féroce. Cette répression féroce, elle n'est pas considérée comme acceptable dans les normes de l'ONU ou dans les normes de certains tribunaux internationaux ou dans les normes de... Enfin bon, voilà, elle correspond pas. Et même les gens qui vendent en Suisse les fusils LBD ont considéré que peut-être il fallait plus en livrer parce que l'usage qui en était fait n'était pas satisfaisant en France. Mais il n'empêche que la répression a été féroce. Et qu'il y a une expérience de cette férocité qui va conduire, à mon avis, à penser autrement le rapport à l'insurrection. C'est-à-dire qu'il n'y aura à nouveau insurrection que si le rapport de force est à nouveau favorable. Et donc, du coup, ça risque d'être très, très, très violent. Et que ça s'apparente à une bataille digne d'une quasi-guerre civile. Et toute révolution bascule dans autre chose quand il y a une guerre civile. Donc, ce n'est plus une révolution. Une guerre civile, ce n'est pas une révolution, c'est autre chose. Et donc, il y a besoin de pouvoir retenir la violence dans une révolution. Sinon, la société s'effondre.
Mais dans les précédents révolutionnaires, corrigez-moi si je me trompe, il y avait toujours quelque chose à conquérir, que ce soit une Bastille réelle ou métaphorique. Et c'est quoi, ce serait quoi l'enjeu d'une révolution en termes
aujourd'hui,
de conquête?
Non, la conquête, c'est la Bastille, c'est un épiphénomène symbolique dans la Révolution française.
Oui.
La chose à conquérir, c'était une justice qui repose sur des normes partagées pour cesser avec
l'arbitraire
de l'absolutisme. Donc, ce qui était à conquérir, c'était une conception juridique, un état de droit. Cet état de droit a connu une histoire avec des progrès et des regrets, c'est jamais linéaire. Un progrès très important après la Seconde Guerre mondiale, on est dans un moment de regret très, très nettement. Donc, je dirais que, du coup, on n'est pas dans une question de conquête nouvelle, mais de reconquête.
Donc, vous pensez qu'il peut y avoir une révolution sur une reconquête de l'état de droit.
De l'état de droit et d'institutions comme les mutualités, qui aujourd'hui sont des grosses structures anonymes un peu. Bien sûr, il y a des militants. Hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui fassent fonctionner. Même la mutualité française, aussi massive soit-elle, elle repose quand même sur des gens qui désirent être détachés dans la mutualité depuis leurs propres emplois, etc. Mais ça n'empêche, c'est devenu assez abstrait, la mutualité. Aujourd'hui, les chercheurs en anthropologie du politique qui travaillent sur les enjeux de redistribution économique s'intéressent à la mutualité du 19e et retravaillent là-dessus pour pouvoir comprendre comment ça a fonctionné, les relations entre les gens, pour pouvoir effectivement se doter d'institutions protectrices et comment de cette mutualité est née effectivement une certaine conception de la sécurité sociale. Donc ces choses-là qui sont en danger aujourd'hui,
si je me permets, en plus qui est une donnée qui n'existait pas à ce point et dans ce point d'urgence.
Oui, mais l'enjeu climatique,
il n'est pas national.
Il n'est pas national, voilà. Et par ailleurs, il n'est pas simplement pas national. Il suppose aussi des normes protectrices qui peuvent être valorisées par des institutions du commun. C'est-à-dire que si on décide que au lieu d'avoir chacun une télé, on va organiser à l'étage 25 de la tour l'espace de quelques télés en fonction du nombre de chaînes ou je sais trop quoi. Enfin, tout est inventé. À ce moment-là, il y a quelque chose d'un bien commun, même par immeuble, comme on a du bien commun par immeuble avec les machines à laver aux États-Unis, par exemple. Bon, c'est à l'évidence moins cher d'avoir ce système-là que d'avoir des machines dans chaque maison. On l'utilise moins souvent, on use moins d'eau, etc. Bon. On peut avoir un imaginaire de ce type-là, et donc c'est un imaginaire de la mutualisation. Cet imaginaire de la mutualisation, il fait partie des signaux faibles de réinvention.
Que les nouvelles technologies accélèrent aussi, puisqu'il y a une mutualisation.
Alors les nouvelles technologies, elles donnent des mauvaises habitudes, parce que chacun a son ordinateur, rebranche constamment son téléphone. Moi-même, maintenant, je transporte constamment un chargeur. Enfin bon, donc ça, c'est des choses qui sont actuelles et qui vont devenir inactuelles assez rapidement, à mon avis, parce que on dépense beaucoup trop d'énergie de cette manière-là, et que c'est pas nécessaire. C'est-à-dire que, en tout cas, dans ma génération, on sait qu'on a très bien vécu sans. C'est difficile à dire aux gens qui ont 20 ans, mais quand même, on peut réexpérimenter. Donc il y a quelque chose là, à mon avis, qui se joue d'intéressant du côté de l'inventivité. Après, moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est que si l'avenir vivant, disons, ardent, celle qui fait envie de continuer à poursuivre un projet et celui de la coopération, l'éducation qu'on nous promet est l'inverse. Et donc cette génération dans 18 ans, si elle est vraiment éduquée dans le modèle qui est proposé de rivalité constante, où la place qu'on occupe est celle qu'on a conquise parce qu'on a été capable de faire l'effort de cette rivalité constante et que donc on a une équité par cette rivalité. Bah, c'est le contraire de la coopération. Donc, soit on éduque à la coopération, on aura une compétence à inventer des formes coopératives, soit on n'éduque pas du tout à ça et on est dans une éducation inverse aujourd'hui et on sera dans un monde dystopique de la rivalité de tous contre tous avec des camps pour les gens qui n'ont pas de travail ou qui sont pauvres ou qui sont, vieux. Et sans argent, par exemple, donc on va vers une déshumanisation qui est atroce. Et pour le moment, la bataille sur l'éducation, elle n'est pas clarifiée, puisque le vocabulaire qui est utilisé est un vocabulaire qui triche. L'école de la confiance, alors que justement être confiant, c'est pouvoir mener sa maturation à des rythmes différenciés. La rivalité constante de tous contre tous, c'est pas ça. Voilà. Donc, du coup, la coopération n'existera que si les familles éduquent à ça, en résistance à un modèle social qui n'est pas celui proposé par le gouvernement actuel, qui est quand même le reflet de cette fameuse forme sociale qui l'a mis au pouvoir et qui souhaite de l'ordre et plutôt que de l'inventivité harmonieuse.
Merci à vous. Dans 18 ans, Zoé Sfès, Jacques Attali, une émission réalisée par Christine Robert avec à la prise de son aujourd'hui Emmanuel Morse d'Incan. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de France Culture ou sur l'application podcast de votre smartphone. À la semaine prochaine.